le ton des textes que le lectionnaire nous offre pendant ce temps de carême met l'accent sur le côté humain de notre Seigneur Jésus. Bien qu'il est vrai que les deux natures du Christ sont inséparables, même dans la mort et même à la croix. C'est ce qui fait le grand mystère pascal. Paul va même jusqu'à dire que c'est à la croix que Dieu a manifesté sa puissance. Frères et sœurs, mais quelle puissance voit-on là? On voit un homme qui crie, qui pleure et qui appelle son Père. Est-ce là la puissance de Dieu mise en action pour sauver le monde? Eh bien oui, c'est là qu'a commencé notre histoire avec le Christ. Ouvrir la Bible pour nous chrétiens, c'est nous apercevoir que nous ne sommes pas seuls. Quelqu'un est là qui nous a mis en branle, en marche, par la force de sa parole. Mais mettez-vous un seul instant à la place d'une personne qui n'a jamais lu la Bible auparavant et à qui on fait la description, au travers de cette péricope de la lettre aux Hébreux, du Sauveur du monde, appelé Jésus. Imaginez-vous que cette personne soit bien consciente que son mode de vie, tout son comportement, tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'elle a fait dans sa vie ne peuvent en aucun cas la préserver d'une condamnation de Dieu le jour où il lui faudra rendre des comptes. Et puis voilà qu'on lui dit « Mais pas peur, il y a une solution. Il y a un sauveur qui va te préserver de la colère divine et même te faire entrer dans le paradis. » Eh bien, je vous assure que cette personne serait plus que perplexe en entendant ces quelques versets expliquant comment ce Messie a procédé pour sauver le monde. Le verset 7 nous dit qu'il a poussé des grands cris, qu'il a versé des larmes, des prières et des supplications. Est-ce que vous trouvez cela rassurant? Et pourtant, l'Épître aux Hébreux est très clair. C'est par ses cris, ses larmes et ses supplications qu'il a écrit l'histoire du salut. Si vous prenez le texte ou le même verset dans la NBS, on y parle d'auteur d'un salut éternel. Et la tombe, elle parle de cause du salut éternel. Donc les textes sont clairs. Et c'est vraiment insensé pour la raison humaine de penser qu'un salut ou une libération quelconque puisse se faire dans les souffrances et que l'auteur de ce salut, le Fils de Dieu, se montre si faible, si craintif finalement comme tous les êtres humains. On serait beaucoup plus rassuré de découvrir que celui qui peut nous préserver du jugement et de la colère divine se montre un tantinet plus combatif et inspire un peu plus de confiance en soi. Depuis la nuit des temps, voyez-vous, toutes les religions ont construit un mythe autour des figures des dieux, les présentant comme des super-héros. Les victoires écrasantes des dieux grecs, romains et autres sur les ennemis se faisaient de façon extraordinaire et glorieuse. La modestie et l'humilité ne faisaient pas partie des traits de caractère de ces personnages prestigieux. En revanche, la théologie de la croix se focalise sur cette humanité du Christ. Ce titre de fils de Dieu et aussi celui de fils de l'homme, ce mot « fils » annonce déjà la couleur par rapport au titre de « père ». Il met en exergue son obéissance volontaire. Lisons bien le verset 8. « Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance. Il démontre, à travers son obéissance, l'amour qu'il porte à son Père. Et donc ici, l'obéissance n'est pas une contrainte, mais une démonstration d'amour. Dans deux chapitres plus tôt, dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 18, Jésus affirme en parlant de sa vie « Personne ne me l'enlève, mais c'est moi qui m'en défais de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en défaire et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Mais ainsi, il montre aussi son intérêt et son amour pour l'être humain. La croix est devenue une exposition, une démonstration du Fils de Dieu pour son Père et pour l'homme. C'est le plan du Père, mais Jésus accepte d'en assurer l'accomplissement. Or, je vous le rappelle, bibliquement parlant, toute personne clouée, crucifiée, fixée sur un bois ou pendue à un bois est maudite. Et voilà qu'à cet endroit-là, Jésus a complètement métamorphosé la croix en une source d'amour. Je tiens à revenir brièvement sur le mot « volontaire ». Car même s'il est dit que le Père a envoyé le Fils dans le monde, le verset que je viens de vous lire dans Jean 10 le montre, Jésus avait totalement le choix de refuser de boire à la coupe amère comme il a accepté de le faire à Gethsémané. La deuxième moitié du verset 7 nous le fait bien comprendre. Et il a été exaucé en raison de sa piété. Quand et comment? Eh bien, dans le jardin de Gethsémané. Rappelez-vous, quand Jésus s'est un peu écarté pour prier, il était véritablement en lutte avec le diable, dont c'était une des dernières occasions de l'empêcher d'aller au bout de sa route. Et un ange, nous dit l'Écriture, est venu pour le réconforter. Un peu comme les anges de Dieu qui sont venus le servir dans le désert après sa première tentation. Et voici que le scénario se répète, mais dans un autre cadre. Satan le pousse à ne pas boire la coupe. Il avait le moyen de la refuser. S'il l'avait fait, ce n'aurait pas été du tout une désobéissance au Père. Il pouvait absolument, en tant que Dieu, refuser de boire à cette coupe, car on ne peut pas soumettre un Dieu à une quelconque obligation. Mais le texte lui-même dit qu'il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Est-ce que l'on peut vraiment mesurer l'ampleur de cette phrase ? Un Dieu qui apprend. Un Dieu qui apprend quelque chose. Mais cette phrase est très importante car le mot « obéissance » en principe ne rime pas avec « divinité ». Un Dieu n'a pas à obéir. Job le reconnaissait lorsqu'il disait « L'homme pourrait-il discuter avec Dieu ?» Si Dieu ne veut pas écouter, rien ne lui oblige, rien ne lui force, C'est lui qui est le plus fort, car nous disent les Écritures, il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et pourtant, il apprend à être obéissant. Il accepte de suivre le commandement de Dieu son Père, par amour pour ce Père et par amour pour nous. Et donc il va vivre dans sa chair pour la première fois ce que c'est que souffrir, avoir faim, pleurer et surtout mourir. Folie et scandale pour les autres religions, car un Dieu ne peut pas ressentir ces choses-là. Mais notre Dieu a connu tout cela grâce à son humanité. Il n'est pas facile de comprendre le sens à donner aux souffrances du Christ si nous essayons de les comprendre par la raison. Il y a cette très belle expression théologique dont on parle pour l'instant de plus en plus, la passion du Christ. Et le mot « passion » englobe deux choses, en fait. Elle exprime d'un côté l'amour que le Fils a pour le Père, un amour passionné qui arrive à son ultime niveau. C'est un amour qui le pousse à aimer son père plus que sa propre vie. Mais le mot passion, comme nous le savons peut-être, vient du latin passio, qui signifie souffrance. Et dans cette passion, il y a une notion de perte. Cette perte est aussi, et surtout, je dirais, du côté du père. Il perd son fils unique. Mais cette perte de Dieu, le Père, permet de combler le vide ou le manquement chez l'homme pécheur. Ce Dieu de la plénitude accepte de subir une perte, une grosse perte même, pour ne pas perdre l'être humain. Les deux lectures tirées du Nouveau Testament présentent un tour plus dramatique que la péricope que nous avons lue dans le prophète Jérémie, car elle nous indique jusqu'où est allé l'entêtement de Dieu dans la double direction, celle du pardon d'un côté, celle d'une plus grande intimité. Je rappelle cette phrase de Jérémie, « Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs iniquités. » L'une et l'autre voie nous conduisent, 8 jours avant le début de la Semaine Sainte, à la contemplation du Christ en croix. Et la voici, l'intimité voulue par le Fils de Dieu. Au jour de sa chair, nous dit la lettre des Hébreux. Et ainsi pour Dieu, il ne s'agit plus simplement d'écrire sa loi sur des tables de pierre, de l'extérieur, ni même de l'inscrire dans les cœurs de chair pour que le peuple la connaisse de l'intérieur, il faut encore que Dieu vienne lui-même en cette condition la plus intime des humains, leur chair. Du même coup, voici le Christ exposé en sa chair précisément à l'abandon moral total et à la mort pour notre salut, comme le dit le Credo. Peut-être sommes-nous trop habitués aux phrases qui pourraient devenir passe-partout du genre « Le Christ a souffert pour nous sur la croix » qui se rend compte du sens de la réalité de cette phrase. Ou au contraire, nous sommes parfois trop réticents à lever les yeux vers ce qui reste tout de même un traitement incroyablement cruel. Pourtant, je le répète, il s'agit du cœur de la foi chrétienne. Le Christ affronte le mal pour sceller définitivement l'alliance. Lui qui est le plus proche de Dieu, puisqu'il est le Fils, se fait maintenant aussi le plus proche de l'homme, puisqu'il devient homme et prend tous les coups que l'homme méritait pour sa méchanceté. Car telle est la volonté persistante du Père. Non pas réclamer le sang de son fils, mais faire aboutir au prix de la redoutable souffrance du fils, l'alliance première au plus près des deux partenaires, Dieu et l'homme. Cette obéissance du fils à la volonté de sauver du père lui vaut d'ailleurs la victoire de la résurrection. Et c'est désormais, à partir de Pâques, c'est désormais à lui que nous allons obéir. Alors il reste peut-être dans vos esprits une dernière question qui vous tracasse. Pourquoi un tel plan? Pourquoi faut-il quand même une mise à mort? Il faut bien se dire, et vous retrouvez cela noir sur blanc dans votre Bible, que si Dieu applique sa justice aux êtres humains, personne ne survit. Ok, bon, mais n'aurait-il pas pu se montrer un peu plus compréhensif? Après tout, dans notre système judiciaire, nous reconnaissons à tous ceux qui se présentent devant un tribunal la possibilité de faire valoir des circonstances atténuantes, des excuses. Si nous ne le faisions pas, nous nous retrouverions avec nos villes et nos villages transformés en villes ou villages fantômes. Et puis, surtout, pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, un innocent ? Eh bien, là aussi, la Bible nous le montre, il fallait un châtiment, puisqu'il y a eu faute, puisqu'il y a eu transgression. Il fallait un être humain, mais aucun être humain n'était suffisamment méritant, comprenez, sans faute. Je vous rappelle que toutes les offrandes, selon la loi de l'Ancien Testament, étaient constituées d'animaux sans défaut. Et toutes ces offrandes, tous ces sacrifices étaient la préfiguration du seul sacrifice capable d'apaiser la colère de notre Créateur, celui d'un homme sans péché. Voilà pourquoi Jésus, voilà pourquoi Fils de Dieu, voilà pourquoi Jésus devenu homme pour notre salut, voilà pourquoi il est devenu le seul Rédempteur possible. Alors, frères et sœurs, en guise de conclusion, que faire de ce texte ? Eh bien, ce passage, à mon avis, nous pousse à prendre du recul vis-à-vis de nos problèmes et de nos difficultés. C'est d'ailleurs un des buts de l'auteur de cette épître. Prendre du recul pour regarder attentivement à notre Sauveur. Alors dirigeons nos regards spécialement en ce temps de carême où nous nous préparons à vivre Pâques vers Jésus, l'auteur d'un si grand salut. De même que son Père n'a pas créé le monde pour le laisser aller au hasard, de même le Fils n'a pas accompli son œuvre de salut pour nous dire ensuite « Voilà, j'ai fait ma part et nous nous retrouverons lors de mon retour. Maintenant, c'est à vous de jouer. » Non, il est toujours agissant et demeure avec nous tous les jours de notre vie. Ainsi, nous avons l'assurance que nous ne manquerons et que nous ne manquons de rien, en tout cas de rien d'important, car nous sommes, frères et sœurs, au bénéfice d'une grâce qui devrait nous porter et nous aider à supporter tous nos problèmes, toutes nos tristesses, toutes nos épreuves. Quelqu'un a assuré notre avenir, Jésus, et il marche à nos côtés, il nous tient par la main, et il ne nous lâchera jamais. Amen.